carrefour de l'info sur Arabelle.
Et aujourd'hui, dans votre carrefour de l'information, nous recevons Jean Kitengé, récemment élu coprésident de la FBJS, la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes, une organisation qui s'est exprimée dernièrement sur l'actualité immédiate, notamment les visites domiciliaires. Il rappelle aussi son attachement à un abonnement STIP presque gratuit pour les jeunes et défend aussi une gratuité totale du matériel scolaire et des activités à l'inscription. Jean Kitengé, bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Très bien, merci d'être avec nous sur Arabelle. On va commencer tout d'abord par le commencement, votre élection à la coprésidence de la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes. Quel est un petit peu votre parcours avant d'arriver un petit peu jusqu'à cette fonction?
Parcours plutôt classique de militant en réalité. Donc voilà, beaucoup ne sont pas savoir que de base, initialement, j'étais président d'une autre jeunesse politique. Je ne l'ai jamais caché. Et j'ai toujours été en fait très proche du Parti Socialiste parce que c'était en fait très inscrit aussi dans ma famille. Ça a toujours été mes idées. J'ai toujours été de centre-gauche dans les combats que je portais. J'ai toujours été porté sur la redistribution. Et donc en fait, mon parcours a été celui de militant. Je suis arrivé dans ma section. J'étais président de la jeunesse de ma section. Et maintenant celle de la Fédération bruxelloise pour faire en sorte finalement de faire vivre le socialisme et dire une chose très concrète finalement aux Bruxellois, c'est que la solidarité, c'est une certaine, j'ai envie de dire, la solidarité c'est cool, plus que ça c'est impératif et on le voit aujourd'hui.
Alors on va s'intéresser à l'actualité immédiate, on va commencer si vous le voulez bien par les visites domiciliaires. La Fédération bruxelloise des jeunes socialistes s'est exprimée sur le sujet récemment, sur l'actualité justement des visites domiciliaires. Votre position sur ce sujet?
Écoutez, c'est très évident qu'on est contre. C'est pas du tout le modèle de société qu'on défend. Les visites domiciliaires, c'est d'une certaine manière instaurer, enfin déjà porter la solidarité comme étant un crime, comme un délit, et c'est finalement l'avènement d'un état policier où on a cette volonté d'une certaine manière d'instaurer presque un ICE à la Trump mais à la Belge.
Quels sont les risques que vous identifiez dans ce type de dispositif?
Il y a plein de risques en fait qui surviennent du flou. Quand il y a un flou, il y a un loup. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'a aucune garantie. Donc, en fait, il y a l'argument qui est avancé par la majorité est celle de dire oui, mais on veut faire ça pour pouvoir aller dénicher les grands criminels, les narcotrafiquants. Mais en fait, des outils pénals, les procédures pénales existent déjà pour faire ça. Il y a le mandat d'amener, il y a le mandat d'arrêt, le mandat de perquis. Donc en fait, en réalité, ça n'apporte rien de plus. Et en plus, ça survient avec la possibilité dans notre droit belge actuel d'être devant une juridiction, donc d'être contesté devant une juridiction. Et il y a tout un processus cadré démocratique. Le souci, c'est qu'en fait, là, rien de tout ça n'est précisé. Au contraire, ça donnerait presque l'opportunité, finalement, d'arriver comme ça du jour au lendemain et de pouvoir, finalement, cueillir des personnes qui ne sont pas du tout des criminels, pas du tout des narcotrafiquants, parfois des pères de famille ou des mères de famille qui sont, en fait, en séjour illégal, tout simplement, mais qui travaillent, et on les accueillerait, on irait les cueillir à 5h du matin devant leurs enfants. Ça, c'est quelque chose pour lequel nous sommes fondamentalement contre. On rappelle que le domicile, c'est quand même un lieu sacré. Créer, c'est protéger, et le fait de pouvoir comme ça, vouloir donner l'opportunité de pouvoir comme ça, outrepasser, violer finalement le domicile des gens, c'est pas quelque chose que nous acceptons. Et encore une fois, c'est l'avènement d'un État où on instaure de la prédation, de la crainte entre les citoyens et surtout d'entre l'État qui irait finalement embêter, faire dénicher, surtout en fait finalement les personnes faibles, donc en séjour illégal, plutôt qu'en fait le grand criminel.
Alors, est-ce qu'il existe des alternatives qu'on peut éventuellement proposer?
Alternative, nous on n'est pas du tout dans une forme de, parce que les alternatives existent déjà d'un point de vue pénal, les outils existent déjà, donc c'est pas, il y a pas d'alternative. La visite domiciliaire en tant que telle n'est pas du tout une bonne idée. En revanche, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est un peu risible de notre côté, parce que on remarque que c'est l'État même qui a finalement déshabillé notre justice et notre police. Dans le premier gouvernement MRNVA, qui aujourd'hui entend vouloir répondre à un ensemble d'objectifs qu'ils invoquent, mais qui au final ne seront pas rencontrés. Et j'ai tendance à dire qu'en fait, ces méthodes qui ont tendance à stigmatiser une partie de la société, une partie de notre société, notamment bruxelloise, sont précisément celles qui marginalisent toute une partie de la population et qui finalement fait la promotion. Donc, pour être très concret, les partis de droite ont cette tendance, selon moi, sont les premiers promoteurs du terrorisme et du narcotrafic. Ce sont eux qui poussent des gens de manière générale, en ne répondant pas à des enjeux sociaux et en les stigmatisant constamment, à finalement être en parallèle de la société, à se sentir exclus de celle-ci. Et ça pousse ces personnes-là dans les bras de personnes mal intentionnées. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est pas du tout ça. Nous, on a conscience qu'il y a déjà un dispositif légal à disposition quand il y a des craintes et des craintes établies, et là et avec la possibilité toujours d'être cadré et d'être contesté s'il y a une erreur de la part de la justice.
Mmh. Jean Guitenge, un autre sujet sur lequel s'est exprimée la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes, tout autre chose, la mobilité et les abonnements STIB. Alors vous défendez un abonnement STIB presque gratuit pour les jeunes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait, très concrètement, aujourd'hui, donc ça fait 5 ans qu'on a obtenu le fait que l'abonnement STIB pour le tarif jeune est à 12 euros par an. En gros, 1 euro par mois. Et ça, c'est une mesure qui devrait être s'accompagner de tant d'autres pour lutter contre le coût de la vie. Parce qu'aujourd'hui, voilà, le coût de la vie augmente. Il est de plus en plus difficile de simplement vivre sa vie d'étudiant, de travailleur. Tout a augmenté. Et donc, c'est une manière de permettre finalement à une personne jeune, mais on voudrait évidemment en fait davantage l'étendre, mais une personne jeune de tout simplement pouvoir vaquer à ses études, à ses occupations, à son travail et l'insérer activement au sein de la société. Donc ça, c'est une mesure qu'on veut conserver, mais évidemment aussi le développer. Alors on a conscience des enjeux budgétaires, on a conscience qu'évidemment il y a on est en déficit et que pour le coup il y a cet enjeu budgétaire. Mais en fait nous on est d'avis de faire participer tout le monde parce que Bruxelles c'est la vitrine de notre pays et on devrait ériger Bruxelles telle qu'elle est en réalité, c'est-à-dire la capitale de notre pays qui a un impact positif finalement sur l'entièreté du pays. On a un moteur économique et quand les gens vont à Anvers ou vont à Liège, eh ben ils passent par Bruxelles et ils utilisent nos transports en commun. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les visiteurs, les touristes qui passent par Bruxelles pour pouvoir et utilisent nos transports en commun. Il y a aussi tout un ensemble de travailleurs qui ne payent pas de taxes à Bruxelles, mais dans leur région respective, mais qui pourtant utilisent évidemment les richesses de Bruxelles en travaillant dedans, mais en les ramenant dans leur région respective et en utilisant nos transports en commun. Donc il est tout à fait normal de faire participer le fédéral à cet effet, et surtout, et sinon, si en fait le fédéral ne joue pas le jeu, eh bien de pouvoir penser à un système qui permettrait de faire participer les régions au financement du coup d'un transport qui se développerait, parce qu'on parlait de maintenir le tarif jeune, c'est une chose, c'est une évidence pour nous, mais il faut aussi qu'en fait le transport en commun puisse répondre aussi à des enjeux nouveaux, puisse être de plus en plus performant, parce qu'en fait je disais vitrine de l'État, mais la première vitrine de l'État pour le citoyen belge c'est évidemment son service public, et donc le transport public au plus il est optimisé, au mieux eh bien, il donnera l'envie de ne pas utiliser sa voiture, d'utiliser le transport en commun. Et culturellement, on le voit, ça s'insère déjà. Donc en fait, aujourd'hui, les jeunes générations, tout comme à Paris, à Bruxelles, c'est la même chose, ont tous et utilisent tous finalement les transports en commun. Et ils le feront de surcroît en utilisant moins la voiture parce que pas nécessaire. Si, évidemment, on le développe, c'est-à-dire en donnant accès à des zones qui ne sont pas encore assez bien desservies, en ayant aussi, par exemple, un ticket digital sur notre téléphone, c'est quand même... On devrait quand même pouvoir le faire. Et puis il y a aussi d'autres enjeux comme évidemment avoir un ticket unique pour l'ensemble des opérateurs, et il y a aussi un enjeu d'accès tant au PMR qu'en fait au final aux femmes de notre pays qui ne sont pas toujours en sécurité. Et tout ça, ce sont des enjeux auxquels on doit répondre et qui donneront envie d'utiliser davantage le transport en commun.
Alors, un abonnement STIB presque gratuit, est-ce que vous avez eu des échanges sur le sujet, notamment le fédéral, la région, la STIB ?
Écoutez, en tout cas, on pose beaucoup la question. Il y a une question que moi, je suis déjà allé poser à pas mal de personnes au sein de la STIB, notamment dans certains dirigeants, et c'était la question finalement des métros de nuit. Ça a été toujours un de mes grands sujets, ça l'est encore. Et la principale difficulté, c'est qu'en fait, l'entretien se faisait la nuit. Je parlais de faire évoluer le transport en commun. Et à cet effet, pour moi, il y a un truc que j'observe quand je vais dans d'autres capitales européennes, parfois même ailleurs, enfin à Istanbul aussi, le transport il est incroyable, on va à Paris, on voit parfois des métros qui sont totalement automatisés, et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi on ne le fait pas à Bruxelles ? Ce serait dangereux à ce stade si on n'a pas de paroi par exemple, qui automatiquement dès que le métro arrive, s'ouvrirait et fermerait. Et bien ça typiquement, ce sont des questions, le type de questions qu'on pose justement au personnel pour savoir si c'est envisageable. Mais en fait en réalité le nerf de la guerre est toujours le même, c'est une question de budget, c'est aussi une question d'organisation. L'organisation, je pense qu'on peut toujours s'organiser d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire on peut voir l'entretien un moment ou à un autre. Oui. Ça, c'est une question, on va dire, d'agenda, de calendrier. Néanmoins, la question du budget, ça, j'y ai répondu plus tôt. Eh bien, en fait, encore une fois, c'est une question de volonté politique. Le problème, c'est qu'en général, au fédéral, on se pose véritablement la question, et surtout aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a des Bruxellois et est-ce qu'il y a des francophones ? Parce que personne n'a l'air de défendre aujourd'hui Bruxelles au sein de son gouvernement fédéral, et pourtant, ça, c'est un avantage pour tout le monde, les Flamands comme les Wallons, et très certainement pour les Bruxellois. Mais en général, on est maltraités, et c'est ce à quoi on devrait répondre, notamment par le biais de nos transports, c'est-à-dire tout le monde devrait mettre la main au portefeuille pour faire en sorte que la capitale, Bruxelles, qui est le moteur économique, puisse après redistribuer à tout le monde. Mais ce n'est pas les Bruxellois qui doivent être les dindons de la farce.
Alors, on enchaîne avec une autre gratuité que vous préconisez, celle de l'enseignement. Vous demandez une gratuité totale du matériel scolaire à l'inscription. Qu'est-ce que vous entendez précisément par là? On sait, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé au niveau politique avec certaines restrictions.
Bah évidemment, alors, beaucoup de restrictions, malheureusement beaucoup trop. Mais notre idéal, en tant que socialiste, c'est évidemment d'avoir un enseignement en fait totalement gratuit. Selon plusieurs études, la rentrée scolaire suscite déjà plusieurs centaines d'euros de coûts par enfant. C'est énorme. C'est énorme de surcroît à Bruxelles où une famille sur deux est dans une situation voilà de précarité. Donc en fait, demander à l'entrée un coût d'inscription plus matériel, plus photocopie, plus le repas, plus, et il y a plein de petits coûts cachés qui s'y ajoutent, c'est inscrire dès le départ une inégalité entre les élèves. On n'est pas pour une société où finalement ton portefeuille va indiquer ton parcours de vie. Nous, c'est pas notre façon de voir le monde. Et donc du coup, évidemment, pour nous, l'enseignement gratuit, c'est un des plus gros leviers pour faire en sorte justement de permettre à l'étudiant de s'émanciper socialement. Et en général, on a tendance à invoquer la question du coût. Déjà, il y a d'autres modèles. Il y a la Finlande, l'Estonie, la Suède. Eux, c'est simple, ils rendent tout gratuit. Et d'ailleurs, même une chose qui est gratuite et qu'on a supprimé chez nous, malheureusement, sous ce gouvernement, encore une fois, c'est la cantine scolaire, le repas gratuit à l'école. Et bien ça, la réalité, c'est qu'en fait, il y a énormément de jeunes étudiants qui vont à l'école le ventre vide. Couper, faire cette coupe budgétaire sur le repas scolaire, pour moi, c'est très grave. C'est très grave parce qu'en fait, d'une certaine manière, ça veut dire que c'est pas grave, on fait peser la responsabilité individuelle sur ces jeunes élèves-là. Si leurs parents ne peuvent pas leur donner une collation, c'est pas grave, ils iront l'entre vite, avec toutes les conséquences que ça a aussi sur leur concentration et leur santé plus tard. Mais à côté de ça, ça instaure cette inégalité de fait entre l'étudiant, donc quand même plus nécessairement au début, mais à la fin pour l'étudiant qui va être déconcentré lors de ses études. Donc ça, c'est pas ce en quoi on croit, et d'autres modèles existent justement. Le coût est souvent invoqué, mais j'ai invoqué des modèles européens d'Europe du Nord, mais même à Bruxelles-Ville, on a fait le choix, nous, de le maintenir. On a même renforcé la cantine scolaire et ajouté la collation, et pourtant, on est dans, lors de notre réforme fiscale, qui est la dernière, on a quand même baissé la taxe, notamment sur les propriétaires qui logent leurs biens au sein de notre territoire. C'est un peu, pour moi, c'est fou de parler de financement, parce que premièrement, en fait, en réalité, c'est pas un coût. On a tendance, en tout cas dans le chef des partis à droite, à voir cela comme une perte, comme un coût. Non, c'est un investissement. En fait, ces jeunes qui vont passer à l'école, au final, ce sont des jeunes actifs qui vont aussi contribuer à notre économie et qui vont consommer. Et donc, c'est avant tout un investissement. Donc déjà, quand on devrait démarrer par comment on devrait investir au mieux pour faire en sorte que évidemment, on optimise notre investissement et que le rendement soit beaucoup plus grand par la suite. C'est comme ça qu'on devrait voir la chose. Et dans un même temps, il y a quand même pas mal de coûts, que ce soit dans les cabinets, que ce soit dernièrement un voyage qui a été financé pour un paquet de personnes à l'étranger. Il y a un ensemble de coûts qui ont lieu à d'autres endroits, et même parfois à d'autres niveaux de pouvoir, qui, elles, sont questionnants à l'heure où on doit serrer la ceinture pour tout le monde. Et je pense que quand il faut faire des économies, parce qu'il y a des économies à faire, ce ne sont pas sur les enfants et les étudiants. En fait, s'il y a bien un budget qu'il faut préserver, même s'il est gros, c'est celui de l'enseignement. Et maintenant, en interne, dans l'organisation, là, il y a des économies à avoir, des économies d'échelle à avoir. Mais ce n'est pas sur l'enfant, sur l'étudiant, qu'il faut faire ces économies, ou alors, par extension, sur l'enfant, via son enseignant, oui. Où on lui rend la vie plus difficile, et donc au final on a du mal à trouver des enseignants. Ça se répercute sur les enfants. Mais donc, encore une fois, là l'enjeu pour moi des économies, je l'entends, des économies il faut en faire, mais ne venez pas nous dire qu'on doit faire des économies et que donc les premières cibles sont les enfants, quand de l'autre côté, notamment en région wallonne, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit les taxes sur l'héritage, donc finalement on avantage les riches, et on fait des cadeaux fiscaux au niveau fédéral, encore une fois, au plus haut salaire, à partir de 25 000 euros par mois, oui. On est exonéré de cotisations patronales. Je pense qu'à un moment donné, le discours n'est plus audible.
Voilà, on a compris un positionnement politique très clair de la fédération. Justement, dernière question, Jean Kitengue. La prochaine étape ou les prochaines étapes pour votre fédération dans les mois à venir?
Ça va être de réinscrire le fait que la solidarité, c'est évidemment important, c'est cool. En fait, finalement, dans une ère où on a tendance à individualiser les gens, à créer de la crainte les uns pour les autres, finalement à transformer le citoyen comme un loup pour un autre citoyen, qui serait un loup. Alors on en a parlé via les différentes mesures, les visites domiciliaires, le fait de pouvoir finalement toujours individualiser et chercher à casser tout ce qui fait le collectif, tout ce qui permet à la collectivité de se soutenir et notamment les plus précaires. À cette heure-là, il est pour moi important de rappeler que la solidarité, c'est important, c'est cool, et plus que ça en fait, c'est ce qui nous permettra d'avoir un modèle de société qui donnera exemple aussi à d'autres modèles de société ailleurs et nous permettra à nous tous finalement collectivement de mieux vivre demain.
Voilà, de mieux vivre demain, c'est le mot de la fin de Jean-Ki Tinguet. Je rappelle que vous êtes coprésident de la Fédération bruxelloise des jeunes socialistes. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre Carrefour de l'info.